Alors, en deuxième partie, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Bonjour, M. Pronovost.
Bonjour, bon matin, merci d'accueillir le personnel de soutien scolaire.
Ça me fait plaisir, moi-même faisant partie de ce personnel-là il y a quelques années maintenant. Alors, aujourd'hui, j'ai quelques questions pour vous, M. Pronovost. Alors, j'espère que vous allez bien.
Oui, je vais très, très bien.
Bon.
Aucun problème.
Alors, écoutez. Bon, vous avez un rôle important, vous représentez beaucoup de monde dans le réseau scolaire. Dites-moi, la Fédération du personnel de soutien scolaire, ce sont qui vos membres dont vous nous parlerez aujourd'hui là?
Dans le fond, la Fédération du personnel de soutien scolaire est composée de tout près de 43 000 membres, répartis dans une vingtaine de syndicats locaux, dans 25 centres de services scolaires.
Oui.
Et tout ce personnel de soutien scolaire-là est composé de 81 corps d'emploi différents.
OK.
Donc, tant au milieu administratif, dans le milieu technique, paratechnique, manuel, conciergerie. Donc, tous ces gens-là font partie du rouage important au quotidien, là, partout dans les centres de services scolaires et commissions scolaires aussi anglophones.
Tantôt, je parlais avec M. Boudreau qui nous parlait de l'équipe. Alors vous, évidemment, tous vos membres, c'est l'équipe qui vient soutenir l'enseignement. Et c'est ça que je comprends, là.
Oui, effectivement, c'est des équipes, c'est des gens qui forment des équipes. On les appelle souvent l'équipe école,
Oui,
qui
ben
viennent
oui.
travailler en collaboration avec les enseignants, avec les professionnels, donc avec les directions d'école, avec les parents. Donc, on forme une équipe école et nous faisons partie de cette équipe-là. Et tant dans le secteur, dans le service direct à l'élève, je pense à nos éducateurs, éducatrices en milieu scolaire, je pense à nos techniciens dans l'éducation spécialisée, nos préposés aux élèves handicapés. Donc, tous ces gens-là qui travaillent à l'école, nos techniciens en service de garde, mais en service direct à l'élève, mais au secondaire, bon, on parle des surveillants d'élèves, on parle de nombreuses personnes qui travaillent vraiment en lien avec les étudiants, les élèves, mais qui travaillent, oui, effectivement, parce que pour nous, une équipe école forte, c'est une équipe qui est complète, c'est-à-dire avec les collègues enseignants et professionnels et soutien scolaire et direction. Donc, ça forme vraiment la base d'une excellente école au
Bon,
Québec aujourd'hui.
alors, maintenant c'est clair, je sais très bien qu'est-ce que c'est qu'une fédération du personnel en soutien scolaire. Dites-moi, quand on a convenu de vous interviewer aujourd'hui,
Oui.
on pensait à la pénurie de la main-d'œuvre. Bon, vous savez que notre ministre, depuis quelques années même, nous parle d'une pénurie de personnel scolaire. On a beaucoup parlé de la pénurie des enseignants, puis tantôt, je sais pas si vous avez écouté l'entrevue avec M. Boudreau, mais on a parlé des enseignants. Moi, je sais très bien que dans le monde scolaire, il y a les enseignants, mais il y a tous les personnels qui gravitent autour de l'enseignement, et vous nous avez bien présenté ça. Dites-moi, comment vous qualifiez la rentrée scolaire actuelle de l'année scolaire 2024-2025 au regard de la pénurie? Comment vous la vivez, cette pénurie-là, puis comment vos membres vivent ça?
Ben, écoutez, elle n'est pas différente depuis quelques années, la rentrée scolaire, au
OK.
niveau de la pénurie de main-d'œuvre, d'accord? Elle n'est pas plus flagrante cette année qu'il y avait l'an passé, il y a 2 ans, et même avant la pandémie. Ce que je veux dire, c'est que au fil du temps, les gens trouvent ça difficile parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de précarité d'emploi. Et vous savez, aujourd'hui, en 2024, vivre dans l'incertitude d'avoir
Économique.
un travail au mois de septembre, l'incertitude économique, mais d'avoir un travail pour payer les besoins de base, là, nourriture, inscription pour les enfants, loyer, etc. Pour les membres, c'est très difficile. Donc, ce que les gens font, c'est que parfois se tournent vers d'autres possibilités où on offre soit un plus grand nombre d'heures, mais qu'on offre aussi une certaine valorisation au travail qui a manqué énormément au fil des années. Et ça, je dois vous dire que c'est quelque chose qui est très préoccupant. Okay. Parce que se sentir valorisé par son employeur, sentir qu'on est derrière lui, qu'il est derrière nous, qu'il nous donne les outils et le temps nécessaire pour travailler, ce que ça fait à un moment donné, c'est qu'on a des gens qui sont en surcharge, on a des gens qui quittent parce qu'ils trouvent le boulot très difficile. Pourtant, c'est le plus beau travail du monde. Moi, je suis un éducateur en milieu scolaire. Okay. Je peux vous dire que si j'avais à recommencer, je le referais pareil. Je travaillerais dans le même domaine, mais force est d'admettre que c'est de plus en plus difficile et les membres le vivent difficilement, cette okay. situation-là.
Alors, ce que vous dites, c'est que la pénurie, entre guillemets, là, puis on va y revenir tout à l'heure, la pénurie a été occasionnée au fil du temps par une forme de, pas de dévalorisation, mais on aurait pu valoriser davantage le rôle, par exemple, la contribution de ce personnel-là auprès de l'équipe enseignante. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, ou bien vous parlez de valorisation plus comme conditions économiques, financières, donner des postes permanents, ou c'est un mélange des deux, là?
Ben moi, je pense que c'est un mélange des deux. Vous savez, quand je dis ça, nos collègues enseignants valorisent et connaissent très bien notre travail. Ouais. Comme personnel de soutien scolaire, nos collègues professionnels, il y a une excellente harmonie. Mais vous l'avez nommé, conditions de travail, valorisation au niveau du salaire. Vous savez, rappelez-vous d'une époque où quand la cloche débutait le matin, il ne se passait rien entre 7h et 8h10. On arrivait dans la cour d'école, on commençait l'école, et quand la cloche sonnait à midi, on retournait à la maison, soit dîner, on restait pas à l'école. Là, je trahis mon âge un peu, là, mais et à la fin de la journée, quand on arrivait à 15h25, 15h20, qu'est-ce qu'on faisait? On retournait à la maison. Oui. Maintenant, l'école, et l'arrivée des services de garde en milieu scolaire, fait que l'école, maintenant, elle est de 7h à 18h le soir pour le primaire.
Ouais.
Pour le secondaire, ben c'est de valoriser de nombreuses activités en engageant beaucoup plus de techniciens loisirs pour donner plus d'options aux étudiants, pour que les étudiants se sentent encore plus inclusifs dans leur école. C'est la même chose pour ceux qui y travaillent. Et l'inclusion est importante, de se sentir inclus dans le grand processus. Et force est d'admettre que quand on parle de nos écoles primaires, mais c'est de 7h à 18h et il faut inclure tout le monde dans ce créneau d'heure.
Est-ce que ça veut dire, M. Pronovo, que bon, on peut bien parler de que mon âge va être trahi aussi, là, mais est-ce que ça veut dire que l'école s'adapte constamment à l'évolution de la société? La société a changé parce que le style de vie des parents a changé, hein, parce que maintenant, on le sait, les deux parents travaillent. Puis souvent, les deux parents ont des contraintes liées à leur activité professionnelle. Et l'école doit s'adapter à ça. Puis d'après ce que j'entends, c'est que le personnel qui soutient ce changement-là, il faut qu'il soit au rendez-vous aussi, d'une certaine manière.
Oui, effectivement, il se doit d'être au rendez-vous. Et parce que vous savez, c'est vous parlez des parents qui travaillent tous les deux. Oui, effectivement, la société a changé. Et le parent, là, quand il nous laisse son enfant à 7h le matin, il nous laisse ce qui est le plus important à ses yeux.
Ouais.
C'est-à-dire son enfant dès 7h le matin. Donc nous, on le prend en charge, on le prépare, on l'amène à l'école. Ensuite, ça, il est vu avec les enseignants, les différents intervenants, les gens de l'aide à la classe qui travaillent avec l'enfant, nos techniciens en éducation spécialisée, peu importe, tous ces gens-là. Et pendant ce temps-là, j'ai une secrétaire d'école qui, elle, travaille au secrétariat de son école, répond à des questions aux parents, reçoit des parents, prépare des rendez-vous, etc., etc. Donc, l'école est en perpétuel mouvement. Elle bouge tout le temps. Et le travail de collaboration avec les parents qui fréquentent est très important, parce que si on n'a pas cette relation-là, comment voulez-vous qu'il y ait une confiance qui s'installe?
Ben oui.
Et ça, ben, les gens en soutien scolaire travaillent en ce sens, mais il faut avoir le temps de développer les relations, développer les liens avec tous ces gens-là. Parfois, ben, encore une fois, dans les conditions de travail, on manque de temps pour pouvoir préparer aussi nos stratégies là, par rapport à tout ça. Là.
OK. Et dites-moi, bon, c'est la semaine nationale du personnel scolaire.
Oui.
Qui est cette semaine, je pense, hein?
Oui, en plein ça, c'est cette semaine.
Bon.
Oui.
Alors, tantôt, vous parliez, dans notre introduction, vous parliez que, bon, il faudrait valoriser davantage l'exercice de ce travail-là auprès des gens qui veulent faire ce métier-là, premièrement, mm-hmm. éventuellement, auprès mm-hmm. du personnel scolaire lui-même. Là, je parle évidemment des administrateurs, je parle des enseignants aussi. Mais dites-moi, comment on peut faire en sorte que l'exercice de ce personnel-là, comment on peut le valoriser? Est-ce que ça commence dans une école secondaire? Est-ce que c'est la formation qu'on devrait changer? Comment on peut valoriser davantage, selon vous, cette carrière-là dans le milieu scolaire? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça?
Oui, ben, premièrement, je veux vous dire, avant, le dernier jeudi de septembre était la journée du personnel de soutien scolaire.
OK.
Nous, ce qu'on a décidé de faire, on a jumelé ça avec le 25e anniversaire de la fédération, de la création de la fédération. Donc, on a décidé de faire maintenant une semaine, du 22 au 28 septembre. Elle commence aujourd'hui.
OK. Alors, c'est une bonne idée qu'on se parle quand même.
Oui, en plein ça. Puis, dans le fond, l'objectif, c'est de reconnaître et valoriser le travail essentiel du personnel de soutien dans les établissements. Autant dans les écoles que dans les centres, parce que vous savez, il y a les centres administratifs et les centres de formation professionnelle, de tous ces gens-là qui y travaillent aussi là-dedans. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut souligner la diversité des postes. Je parlais des secrétaires, des éducateurs spécialisés, des techniciens en documentation, les concierges, les surveillants. Il faut montrer à la population comment ces rôles-là contribuent là, vraiment, mais vraiment à la bonne marche des écoles et à la réussite. Sans nous, là, ça fonctionne pas.
C'est intéressant.
Et je vous prends la phrase cliché. Si le concierge n'ouvre pas l'école à 6h30 le matin, et si le service de garde n'ouvre pas ses portes à 7h le matin, l'école ne peut pas y aller, elle ne peut pas partir. Donc, vous savez, l'importance puis vous me disiez, avez-vous des idées, mais c'est de mettre, tu sais, en avant leur impact direct sur l'expérience scolaire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis la création d'un environnement d'apprentissage sûr, mais sécuritaire puis accueillant, c'est important, ça.
OK, c'est intéressant.
Comment les secrétaires... un exemple concret de comment les secrétaires facilitent la gestion quotidienne. Comment nos concierges assurent la propreté et la sécurité? Comment les éducateurs spécialisés aident les élèves, les difficultés? Comment nos techniciens en travaux pratiques préparent les laboratoires à l'école secondaire? Comment nos techniciens en loisirs préparent les activités parascolaires dans une journée? Tous ces gens-là, là, ce qu'ils font, c'est que il faut insister sur le soutien aussi émotionnel et social. Il faut insister sur la part de notre personnel pour le bien-être des élèves. On est souvent les premiers à intervenir en cas de problème émotionnel ou social à différents corps d'emploi. Je donne un exemple très simple. À l'époque, on avait un concierge qu'on adorait tout le monde. Et ce monsieur-là, tous les jours dans notre école, nous disait bonjour, comment ça va? Puis il nous agaçait, nous connaissait par nos noms, nos prénoms. Donc, il y avait un lien. C'était notre concierge. C'était lui qui s'occupait de la propreté. C'est pour vous dire que tous les gens ont un impact et c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est le personnel, les défis qu'on rencontre, c'est il faut réussir à parler des difficultés qu'on rencontre. On parlait tantôt de la pénurie, le manque de reconnaissance, la surcharge de travail. Puis vous savez, moi je dis toujours, il y a différentes initiatives pour célébrer cette semaine-là organisée dans les écoles. Il y en a plusieurs, il y a des lettres de remerciement. On demande aux parents, et les enseignants, les professionnels, les directions à exprimer leur gratitude à travers des gestes simples, soit des cartes, des mots, mais de le dire à ces gens-là, bonne semaine nationale du personnel de soutien scolaire, on a besoin de vous. Et vous savez, ce sera toujours... On dit une semaine, mais à tous les jours, on peut leur dire. Puis c'est souvent l'appel à une plus grande reconnaissance, mais continue. ce que je faut souligner l'importance de ne pas limiter, tu sais, cette reconnaissance-là à une semaine, mais de ne pas gêner pour leur dire merci, merci du travail accompli, merci pour ce que vous faites.
Je ne sais pas si c'était clair pour vous, M. Pronovost, mais moi, je comprends très bien ça parce que j'étais un ancien directeur d'école. Là. Alors, passé ma carrière dans le monde de l'éducation. Alors, moi, je sais très bien, tantôt vous parliez du concierge ou du technicien à loisir ou celui qui travaille dans le laboratoire. D'après ce que je comprends, c'est qu'il faut aussi faire connaître la contribution de ces personnes-là pour la contribution positive qu'ils ont dans l'environnement de l'école. C'est ça que je comprends.
C'est exactement ça. Puis, vous savez, vous disiez, j'ai été directeur d'école. Moi, j'ai envie de vous dire que une bonne relation, parce que on en fait des relations énormément avec les associations de direction d'établissement. C'est plus vrai, là, qu'on est toujours en confrontation, les syndicats d'un bord. On travaille beaucoup en collaboration, puis on tente de travailler ensemble. Et ça, ben, pour nous, là, c'est important avec les comités de parents, les associations de direction, parce que dans nos discussions, on veut que de part et d'autre, ça se reflète sur les gens qu'on représente, les gens avec qui on travaille.
Ben oui.
Et je pense qu'il y a un créneau, il y a une façon qui tourne dans un environnement plus positif, mais il nous reste encore du travail. Okay. Il nous reste encore énormément de choses à faire. Mais très heureux déjà du chemin parcouru, je vous dirais, là, présentement.
Okay.
Mais il ne faut pas lâcher, parce qu'on ne peut pas toujours être d'accord, mais il y a une chose, par exemple, on travaille pour une chose. On travaille pour nos enfants, nos étudiants, nos jeunes adultes. On travaille pour une éducation meilleure. C'est comme ça qu'il faut le faire.
M. Pronovost, l'émission avance tout doucement. J'ai encore deux sujets à aborder avec vous.
Oui.
Alors, dites-moi, dans le passé, puis même encore beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup d'intimidation dans l'école, des élèves envers le personnel. Puis on a beaucoup parlé de l'intimidation aussi que les élèves pouvaient faire auprès du personnel enseignant. Puis certains enseignants ont remarqué que depuis quelques années, il pouvait y avoir des comportements qu'on pourrait qualifier de violents dans les établissements. Est-ce que votre personnel vous interpelle beaucoup, pas votre personnel, mais vos membres? Est-ce que vous êtes beaucoup interpellé par cette problématique-là dans le rapport qu'ils peuvent avoir avec les enfants dans l'exercice de leur métier?
Effectivement, je dois vous dire que on va sortir bientôt des données parce qu'on a fait 3 sondages en 2017, 2021 et 2024. On a sorti 3 sondages à la Fédération et le constat est très, très clair. Ce qu'on constate aussi, c'est que 94% présentement des gens qui ont subi de la violence, c'est ceux qui travaillent dans le service direct à l'élève. Je parlais de surveillants d'élèves tout à l'heure. Je vous parle d'éducatrice en milieu scolaire, de techniciens en éducation spécialisée, de préposés aux handicapés, des techniciens en service de garde. Donc, c'est beaucoup de gens qui sont en service direct aux élèves. 94% ont été touchés là, par de la violence, de toute forme.
Okay. Hein?
Violence sexuelle, violence physique, violence mentale et tout. Oui, il y a un constat. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler en amont de cette violence-là. Tout ce qu'on propose, puis on l'a proposé au ministère, mais présentement, il y aura des rencontres, je dois le dire, prochainement, sur la violence, et nous, ce qu'on propose, là, c'est de travailler en amont. Travailler en amont avec qui? Avec les parents. Mm-hmm. Travailler là avec... nous, on représente des gens qui sont des techniciens en travail social. C'est des gens qui pourraient être en lien avec le milieu, les milieux communautaires, pourraient travailler en collaboration avec ces gens-là, et développer des stratégies pour voir arriver un peu, connaître un peu plus, sans s'immiscer dans la vie des parents, mais de connaître un peu plus les difficultés, travailler avec en lien avec les milieux communautaires, les CLSC, la DPJ, pour qu'on puisse voir venir et être capable de planifier nos stratégies en fonction de ce qui pourrait se passer. Est-ce qu'on réglerait tout? Je pense pas. Mais on en réglerait une grande partie parce qu'on la verrait arriver. Parfois, ces gestes-là, des fois, il y a des gestes dramatiques, là. Il y a des situations très graves qui arrivent. Donc, pour nous éviter ça, en collaboration avec, encore une fois, toute l'équipe école, la direction, je pense que on pourrait développer ce créneau-là, puis pouvoir être capable d'être à l'affût. Vous savez, pas juste à l'affût de la violence qui arrive, mais être à l'affût aussi de comment on pourrait faire pour aller ou tenter de régler la situation, donner les bonnes alternatives, donner les bons intervenants. Donc, pour nous, le travail en amont va être une priorité pour diminuer ce fléau-là qui, malheureusement, prend de l'ampleur épouvantablement.
Oui, puis est-ce que vous aussi, vous avez noté une différence des comportements violents? Peut-être que l'information est pas encore disponible, mais est-ce qu'il y a une différence dans les comportements violents entre les enseignants puis le personnel scolaire de façon générale que vous représentez? Est-ce que, vu la relation qui n'est pas pareille, est-ce que le comportement violent se manifeste de la même manière?
Ben, je dois vous dire que, vous savez, quand un enfant, un élève se désorganise dans la classe, ben, habituellement, il peut y avoir une technicienne ou un technicien en éducation spécialisée pour calmer la situation. Oui. Je donne un exemple. Oui. Il y a aussi l'enseignant.
Oui.
Est-ce que l'enseignant s'est fait bousculer, pousser ou s'est fait tirer une chaise au départ de la situation qui a dégénéré? Mais par la suite, c'est souvent le technicien en éducation spécialisée qui vient intervenir. Donc, oui. Lui aussi, il peut recevoir la même chaise ou une autre chaise, ou recevoir une claque, ou recevoir un blasphème, des cris. On a même des endroits où il y a eu certains attouchements là au niveau des seins là. Donc vous comprendrez que c'est il y en a de plus en plus. Je vous dirais que on est dans le même créneau de violence.
Okay.
C'est clair, on était précis. Mais peut-être que
l'intensité n'est pas la même, par exemple.
Mais ce que je veux dire, c'est que l'intensité, je vous dirais qu'elle peut être pareille, elle peut être différente, mais vous savez qu'après la classe, il y a des espaces de vie là, que les étudiants au secondaire, soit ça dans le salon étudiant, ou ils sont dans l'espace casier, autour de l'école, les récréations primaires, bon, ben, il peut y en arriver des situations-là, et c'est pas l'enseignant qui agit, donc c'est souvent le personnel de soutien, les éducatrices, les éducateurs en service de garde, peu importe spécialisés, qui interviennent et qui, malheureusement, mangent les coups, eux aussi, se font crier après, se font manquer de respect. Donc, on est dans une zone à risque pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on dit, nous, faut travailler en amont, puis développons les stratégies avant, travaillons en collaboration avec les parents, avec les milieux communautaires, avec le CIUSSS, peu importe. Il faut former une grande équipe là pour être capable, après ça, de dire, ben on a mis des choses en place et continuer, ça s'est arrêté. C'est sûr que arrêter complètement la violence, pour vous dire, c'est peut-être un vœu pieux, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut aussi, là. Mais
ben ouais.
du moins, la diminuer, ça, c'est clair. Parce qu'un geste de violence est déjà un de trop.
C'est pour moi. Alors, notre entrevue va terminer bientôt. Je veux prendre quelques secondes pour que vous réussissiez un petit peu comment le personnel de garde, parce que tantôt, dans mon introduction, j'ai fait état d'une recherche qui parlait des écrans auprès des jeunes. Dans les services de garde, est-ce que votre personnel vous parle de ça rapidement?
Ben rapidement, je dois vous dire que les écrans, on entend toutes sortes de choses. On entend même que, au service de garde, les enfants passent leur temps aux écrans. Moi, je vous dis que non.
Okay.
Je vous dis que c'est complètement faux. Parce que quand je dis complètement faux, ça ne veut pas dire qu'ils en font pas de l'écran. Par contre, c'est des écrans ou des ordinateurs où c'est très réglementé. Tu peux pas aller n'importe où. Là. Je veux dire, quand tu travailles dans l'espace école, sur différents sites un peu partout, c'est quand même réglementé. Nous, okay. Ce qu'on dit, c'est que occupons nos enfants à l'école, donnons-leur le maximum d'activités possibles, et donnons-leur aussi aux étudiants aux écoles secondaires le maximum d'activités pour diminuer ça, ce temps-là d'écran. Et je pense que on va tous arriver au même point. Et une collaboration avec nos parents aussi là-dessus, ça va être important.
Monsieur Pronovo, je vous remercie beaucoup. Vous avez été vraiment très intéressant. Malheureusement, on doit mettre fin à notre entretien.